Bonjour, mes frères. Nous voici au dernier jour des pains sans levain, au service de l'âme. Veuillez vous reporter au chapitre 14 de l'Exode. Exode, chapitre 14. Quand je pense, ou peut-être quand nous pensons tous à Israël sortant d'Égypte, parce que c'est ce que représente ce dernier jour des pains sans levain, franchement, l'ensemble, tous les jours des pains sans levain dépeignent Israël sortant d'Égypte. Mais lorsque nous pensons au dernier jour des pains sans levain, nous pensons souvent à la mer Rouge, au passage d'Israël à travers la mer Rouge, et aux miracles vraiment historiques et monumentaux que Dieu a accomplis non seulement à ce moment-là, mais aussi jusqu'à ce moment-là. Et puis, évidemment, après la mer Rouge, quand Israël était dans le désert. Mais ce qui est également remarquable, c'est que lorsque nous pensons au jour des pains sans levain, nous pensons à ces miracles incroyables. Mais nous pensons aussi à l'incroyable capacité d'Israël à oublier ces miracles et à abandonner si rapidement le Dieu qui les a fait sortir par ce miracle extraordinaire le dernier jour des pains sans levain, en traversant la mer Rouge, et ils ont voulu retourner en Égypte. Ils voulaient retourner en Égypte, retourner à l'esclavage et aux épreuves qu'ils subissaient auparavant, parce qu'ils avaient tout simplement oublié. Mais il ne s'agit pas seulement d'un oubli. Nous y reviendrons. Bien sûr, ils se sont plaints une fois dans le désert. Mais, frères, avons-nous considéré qu'Israël convoitait, qu'il voulait retourner en Égypte, même au bord de la mer Rouge? Pardonnez-moi, ne passez pas à l'Exode 14. Passez au psaume 106. Psaume 106. Lisez quelques versets et remarquez qu'Israël s'est plaint avant même d'avoir quitté le pays d'Égypte, il n'avait pas encore traversé la mer Rouge, et il se plaignait et murmurait. Psaume 106 et verset 7. Nos pères n'ont pas compris tes merveilles en Égypte, ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes miracles en Égypte. Ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes miséricordes. Dieu a fait, une fois de plus, d'énormes miracles en faisant sortir Israël d'Égypte, mais ils ne s'en sont pas souvenus. Au lieu de cela, il est dit au milieu du verset 7, ils le provoquèrent à la mer Rouge. Ils n'étaient même pas sortis et ils se plaignaient et murmuraient. Le verset double est dit, même au bord de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, afin de faire connaître sa puissance. Encore une fois, tout aussi incroyable que les miracles accomplis par Dieu, il y a la capacité d'Israël à oublier si vite et à vouloir retourner en Égypte. Ajoutons quelques détails. Revenons à l'Exode 14. Parcourons brièvement le récit de l'Exode. Nous commencerons par Exode 14 et nous examinerons certaines des choses dont ils se plaignaient avant même d'avoir quitté le pays d'Égypte. Exode 14. Commençons la lecture au verset 1. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Dis aux enfants d'Israël de se détourner et de camper devant Pihéroth et Migdol, de l'autre côté de la mer, contre Baal-Zéphon. C'est devant eux que vous camperez au bord de la mer. Car Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont empêtrés dans le pays, et le désert les a enfermés. Et Dieu dit qu'il endurcira le cœur de Pharaon pour qu'il les poursuive. Je serai honoré par Pharaon et par toutes ses armées, afin que les Égyptiens sachent que je suis le Seigneur. » Et c'est ce qu'ils firent. Le roi d'Égypte fut informé de la fuite d'Israël. On apprit que le Pharaon et ses serviteurs s'étaient retournés contre le peuple et ils dirent, « Pourquoi avons-nous fait cela? Pourquoi avons-nous empêché Israël de nous servir? Nous voulons qu'il reste dans la servitude. Pourquoi les avons-nous laissés partir? » Et, bien sûr, c'était le dessein de Dieu. Il prépara son char et emmena le peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, les chefs de tous les chars, tous les hauts fonctionnaires d'Égypte. Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui poursuivit les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël sortirent à main levée. Là encore, des miracles massifs. Mais les Égyptiens les poursuivent. Tous les chevaux et les chars de Pharaon, les cavaliers et l'armée les rattrapèrent en campant au bord de la mer. Encore une fois, ils n'avaient pas encore quitté ou traversé la mer Rouge. Remarquez bien cela. Ainsi, lorsque ces mâts armés s'approchent d'Israël, il est dit au verset 10, à l'approche de Pharaon, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens marchaient à leur poursuite. Ils furent saisis d'épouvante. Ils ont eu très peur. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, parce qu'il n'y avait pas de sépulture en Égypte, tu nous as emmenés mourir dans le désert. Ils se plaignirent à Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir du pays d'Égypte pour mourir? Pourquoi nous as-tu traités pour nous faire sortir d'Égypte? N'est-ce pas là la parole que nous t'avons dite en Égypte? Laisse-nous tranquilles. Ils disent, n'avions-nous pas raison de dire que nous devions rester ici en Égypte? Car il valait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Pensez à tout ce qu'ils ont vu jusqu'à présent. Ils avaient vu toutes les plaies d'Égypte, les grenouilles, les ténèbres, les poux et bien d'autres choses encore. Ils ont vu le bâton se transformer en serpent et vice-versa, et ainsi de suite. Pensez à tous les miracles qu'ils ont vus, mais ils voulaient retourner en arrière. Reprenons au verset 19, l'ange de l'Éternel, qui marchait devant le camp d'Israël, se retira et marcha derrière eux. Encore une fois, des miracles énormes. C'est le récit, jusqu'à la fin du chapitre, du départ d'Israël et de son passage à travers la mer Rouge. Ils se plaignent donc. Puis ils arrivent à la toute fin du chapitre. Et Israël vit le grand travail que le Seigneur avait fait sur les Égyptiens parce qu'il avait englouti les Égyptiens dans la mer Rouge et le peuple craignit devant le Seigneur et ils crurent le Seigneur et son serviteur Moïse. D'accord, lorsqu'un miracle vous tombe dessus, il est facile de dire, « Eh bien, nous te croyons, Dieu !» Mais jusque-là, ils avaient oublié tous les miracles accomplis par Dieu auparavant. Au chapitre 15, Moïse chante un cantique. Nous arrivons même au verset 20. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin, et toutes les femmes sortirent avec elle, avec les tambours et les danses. Myriam leur répondit, « Chantez au Seigneur, car il a triomphé glorieusement. Nous venons de sortir d'Égypte, de traverser la mer Rouge. Nous venons de traverser la mer Rouge. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Moïse fit sortir Israël de la mer Rouge et ils partirent pour le désert de Shur. Ils marchèrent 3 jours dans le désert et ne trouvèrent pas d'eau. 3 jours plus tard, le verset 23 dit, lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent boire les eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi on l'appelait Mara. Le peuple murmura contre Moïse, en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui montra un arbre. Il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Moïse fit pour eux une statue et une ordonnance, et il les mit à l'épreuve. Frères et sœurs, les récits se poursuivent. Regardez les deux récits que nous venons d'examiner dans Exode 14 et Exode 15. Israël a une capacité incroyable à murmurer et à se plaindre et à vouloir retourner en Égypte malgré les miracles massifs, Revenons donc au psaume 106. Maintenant que nous avons étoffé ce que nous venons de lire dans le psaume 106, retournons au psaume 106 et voyons exactement quel est l'un des grands problèmes d'Israël. Et c'est sur ce point que portera ce message. Psaume 106, et nous reprendrons au verset 9. Psaume 106 et verset 9, il menaça aussi la mer rouge, et elle se dessécha. Nous venons de le lire. Il les conduisit dans l'abîme comme dans le désert, il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs ennemis, il n'en resta pas un seul. Alors ils crurent à ses paroles, ils chantèrent sa louange. Nous venons d'entendre parler du chant qui a été entonné dans Exode 15. Mais ils ont vite oublié ses œuvres, dit le verset 13. Ils n'ont pas attendu son conseil. Quel était leur problème fondamental, mes frères? Le verset 14 dit, ils se livrèrent à des convoitises excessives dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans le désert. Ils ont eu des désirs ardents. Le mot « convoiter » signifie « désirer », « désirer ardemment les choses de l'Égypte », ils voulaient désespérément, mes frères, y retourner. Ils convoitaient les choses de l'Égypte. Ils la convoitaient. Verset 15. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, mais il mit la maigreur dans leur âme. Ils enviaient Moïse dans le camp, et Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle couvrit la troupe d'Abiram. Un feu s'alluma au milieu d'eux, et la flamme consuma les méchants. Lorsque les gens se sont rebellés dans l'Égypte ancienne et ont voulu retourner en arrière, et qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont souvent été détruits sur le champ. Puis Aaron, au verset 19, alla faire un vœu à l'Horeb, et il se prosterna devant l'image en fonte. La rapidité avec laquelle même les dirigeants, certains des dirigeants, se sont détournés de Dieu. Mais, frères, n'oublions pas le point central ici. Israël a immédiatement désiré ou convoité les choses de l'Égypte. Lorsqu'ils sont partis, leur convoitise des bonnes choses de l'Égypte leur a donné envie d'y retourner. Frères et sœurs, aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, la convoitise peut aussi nous ramener dans le monde. Qu'est-ce que la convoitise? Eh bien, la convoitise, c'est un grand mot qui veut dire désirer ou désirer quelque chose. Plus simple encore, si nous voulons rendre le mot convoitise moins mystérieux, car lorsque vous dites « je convoite quelque chose », il est plus compliqué ou plus difficile de comprendre ce que cela signifie exactement que de dire simplement « je veux quelque chose ». La convoitise est simple, mes frères. Cela signifie que vous voulez quelque chose. Cela signifie que je veux ceci ou cela, et cela peut être bon ou mauvais. La convoitise n'est pas toujours une mauvaise chose. Lorsque nous pensons à la convoitise, nous pensons souvent à l'avidité. Nous pensons à la volonté d'amasser de l'argent et des choses. Si vous convoitez une télévision à grand écran, peut-être avez-vous vu que votre voisin avait une télévision à grand écran et que vous ne l'avez pas, vous pouvez la convoiter. Vous pouvez le désirer. Franchement, vous voulez la voir. Voilà ce qu'est la convoitise. Nous pouvons penser aux personnes qui désirent ardemment les ordinateurs ou la technologie les plus récents et les plus performants, les écouteurs, les téléphones portables, les consoles de jeux vidéo. Si vous revenez en arrière et lisez le 10e commandement dans Exode 20, vous pouvez vous y reporter. Une grande partie de ce commandement, le 10e commandement, concerne des choses physiques. Dieu ne veut pas que nous désirions ou convoitons ou simplement que nous voulions trop de choses physiques dans cette vie. Lisons le chapitre 20 de l'Exode, verset 17, le 10e commandement. Verset 17, Exode 20, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, une chose physique, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, encore une chose physique, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. En termes modernes, on pourrait dire qu'un bœuf ou un âne est une charrue, ou qu'un serviteur ou une servante est un de ces robots fantaisistes qui coûtent des centaines de dollars et qui nettoient la maison tout seul, ce genre de choses. Il n'y a rien de mal à vouloir certaines de ces choses, mais si nous les convoitons et les voulons trop, c'est là que nous avons franchi la ligne. C'est ce dont il est question dans ce message. Nous allons voir ce qu'est la convoitise. Car, mes frères, cela peut être mystérieux, mais cela ne devrait pas l'être. L'un des problèmes fondamentaux du grand Israël était qu'il convoitait. Si nous essayons, en ces jours de pain sans levain, de ne pas ressembler à l'ancien Israël, nous devons savoir ce qu'est la convoitise, et c'est simple. C'est très, très simple. La convoitise est beaucoup plus large que le simple désir de posséder des biens, comme nous l'avons vu dans le chapitre 20 de l'Exode. Passez au 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Nous lisons au verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, le résumé de ce monde est le suivant, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne sont pas du Père, mais sont du monde. Ces trois choses, frères, vous les avez peut-être déjà entendues, mais elles peuvent être résumées d'une manière simple. Elles sont résumées par les trois psaumes, les passions, la convoitise de la chair, ce sont les passions, la convoitise des yeux, ce sont les possessions, et l'orgueil de la vie, ce sont les positions. Les passions, les possessions et les positions. Le monde entier et tout ce que vous voyez se résume à ces trois choses. Tout ce qui existe dans le monde est défini par les passions, les possessions et les positions. Ces trois choses peuvent être convoitées. Généralement, nous pensons aux possessions comme étant convoitées, mais c'est bien plus que cela. Les possessions ne représentent qu'un tiers des choses que nous pouvons convoiter dans cette vie. Dans Nombre 11, Israël a recherché des choses physiques, des possessions physiques. Il voulait manger des concombres, des poireaux, des melons, des oignons et de l'ail. Ces possessions physiques, si vous voulez, leur manquaient en Égypte. Elles leur manquaient, et c'est pourquoi ils les ont convoitées. L'herbe est souvent, mes frères, c'est tellement vrai, l'herbe est souvent plus verte de l'autre côté. Il est plus facile de dire, « Oh, je préférerais avoir cette chose là-bas que de se contenter des choses que nous avons ici. » Je l'ai déjà dit et je le répète, la convoitise n'est pas toujours mauvaise. Encore une fois, cela signifie simplement vouloir quelque chose. 1 Corinthiens 12 et le verset 31, vous pouvez vous tourner là. Le verset 31 de la première épître aux Corinthiens dit ceci, « Mais convoitez avec ardeur les dons les plus excellents, et je vous montrerai encore une voie plus excellente. » Dieu veut que nous convoitions. Y avez-vous réfléchi? La Bible nous ordonne de ne pas convoiter, mais c'est aussi un autre type de commandement, dans 1 Corinthiens 12, 31, que Dieu nous dit de convoiter. Comment est-ce possible, mes frères? Il y a deux catégories de choses à convoiter. Il y a des choses qu'il est bon de convoiter et d'autres qui sont mauvaises, et Dieu veut que nous désirions convoiter, que nous voulions simplement désirer sincèrement les meilleurs cadeaux. Le psaume 10 et le verset 17 disent, « Seigneur, tu as entendu le désir des humbles. » Un désir, c'est quelque chose que l'on veut. On peut le convoiter. Tu prépareras leur cœur. Tu feras en sorte que son oreille entende. Il est bon de convoiter des choses tant que cela reste dans les limites de Dieu. Passez à la 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2. Verset 17. 1 Thessaloniciens 2, verset 17. Nous, frères, qui avons été éloignés de vous pour un peu de temps en présence, et non de cœur, Nous nous sommes efforcés avec un grand désir de voir votre visage. J'ai désiré chaque sabbat et, franchement, chaque jour, parce que je travaille ici au siège, j'ai désiré venir au travail et voir les frères. Et vous avez tous le désir, chaque sabbat, de voir les frères. Paul avait le même désir. Il n'y a rien de mal à convoiter cela, à vouloir être entouré de personnes partageant les mêmes idées dans un monde rempli de passion, de possession et de position. Il n'y a rien de mal à vouloir cela. En fait, c'est une bonne chose. Dieu veut que nous convoitions certaines choses et il ne veut pas que nous en convoitions d'autres. Le dernier repas, Luc 22 à 15 dit que la nuit du dernier repas, Christ a dit qu'il désirait, qu'il convoitait de manger cette dernière Pâque avec les disciples. C'est ce qu'il désirait. Les proverbes nous parlent de désirer et de convoiter la bonté. Ainsi, frères, nous devons faire la différence entre la bonne et la mauvaise convoitise, la bonne et la mauvaise luxure. Vous pouvez intervertir tous ces mots, désir, convoitise, désir, toutes ces choses sont les mêmes. Car la mauvaise convoitise est vraiment dangereuse. Il est facile, ou il est bon pour nous de désirer des choses, de bonnes choses, mais il n'est pas bon pour nous de désirer de mauvaises choses. Passez au chapitre 1 de l'épître aux Jacques. Jacques chapitre 1 et verset 12. Jacques 12. Heureux l'homme qui supporte la tentation, car, lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente personne. Mais tout homme est tenté quand il est entraîné par sa propre convoitise et qu'il est séduit. Nous pouvons désirer de bonnes choses dans la vie, mais si nous désirons de mauvaises choses, c'est le chemin sur lequel la convoitise nous entraîne. Lorsque nous sommes attirés par notre propre désir, nous sommes séduits. Le verset 15 dit, « Lorsque la convoitise est conçue, elle engendre le péché. Et le péché, lorsqu'il est accompli, engendre la mort. Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. Et je vous dirai la même chose à vous tous et à moi-même. Nous ne devons pas nous tromper. Nous ne devons pas commettre l'erreur de laisser entrer la mauvaise convoitise qui mène au péché et, en fin de compte, à la mort. C'est par la convoitise que tout commence. C'est la convoitise qui a provoqué la chute d'Israël. La luxure et la convoitise pour les choses qui sont mauvaises peuvent nous faire tomber aussi. Alors, frères, qu'est-ce que la convoitise? À quoi est-elle liée? Que dit la Bible à ce sujet? Y a-t-il un remède à la convoitise, à la luxure, au désir, à la mauvaise convoitise et au mauvais désir? Nous allons donc passer en revue une série de points, de choses auxquelles la convoitise est liée. Et vous pourriez probablement en trouver quelques-uns par vous-même, c'est évident. Le 10e commandement associe la convoitise à la cupidité et à l'argent ou aux choses de cette vie, mais décomposons vraiment les choses et comprenons à quel point la convoitise est vaste, car elle va bien au-delà de ce que vous et moi avons pu penser. Passons donc au chapitre 21 des Proverbes. Le premier point est la cupidité. La convoitise est liée à la cupidité. Proverbe 21. Nous lisons le verset 25. Proverbe 21, 25. Le désir du paresseux le tue, car ses mains refusent de travailler. Il convoite avec avidité tout le jour, mais le juste donné n'épargne pas. La convoitise est donc liée à l'avidité, au fait d'être centré sur soi-même. Encore une fois, lorsque je dis que la convoitise est liée à l'avidité, il s'agit d'une mauvaise convoitise et non d'une bonne convoitise. Il faut que nous fassions désormais la part des choses dans notre réflexion. Ce dont nous parlons ici, C'est de la mauvaise convoitise liée à ces différentes choses, dont la première est la cupidité. Le mot « cupidité », selon la définition du dictionnaire, est un désir intense et égoïste de quelque chose, en particulier de la richesse, du pouvoir, de la nourriture. Nous pouvons être avides de toutes sortes de choses, mais cela nous ramène toujours à nous-mêmes. La convoitise consiste pour vous et moi à nous apporter les choses que nous voulons, à garder les choses pour nous, mais il s'agit d'un désir intense ou égoïste pour quelque chose, en particulier la richesse, le pouvoir, la nourriture. Nous pouvons être avides de nourriture, ou nous pouvons être avides de toutes sortes de choses dans cette vie. Pensez à un petit enfant, on lui apprend à partager. Ils partagent leurs jouets avec d'autres personnes, avec d'autres enfants. Ne soyez pas avides égoïstes et ne les gardez pas pour vous. Laissez les autres profiter des choses dont vous profitez, et cela leur donne une grande leçon dès leur plus jeune âge. La convoitise est absolument liée à l'égoïsme. La mauvaise convoitise est liée à l'accumulation de choses pour soi-même. Le point suivant est le chapitre 6 de la première Timothée, que vous pouvez consulter. Beaucoup d'entre eux seront rapides, mais certains sont un peu plus profonds. 1 Timothée, chapitre 6. Le point suivant concerne l'argent. L'argent, c'est évident. Lorsque vous pensez à la convoitise, vous pensez vraiment à l'argent et au désir de garder votre argent ou d'en gagner davantage, d'y aspirer, d'amasser des richesses. 1 Timothée, 6e et 9e versets. Est-ce ainsi que Dieu considère l'argent? Comment devrions-nous considérer ce sujet de l'argent? 1 Timothée 6 et verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège, et dans beaucoup de pertes insensées et funestes, qui entraînent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine, ou c'est vraiment une racine, de tous les maux, que certains convoitent après s'être détournés de la foi et s'être transpercés de beaucoup de douleurs. L'argent peut être une chose vraiment problématique pour les membres de l'Église de Dieu. Il peut vous amener, c'est ce qui est écrit, à quitter l'Église. Il se perce de nombreux chagrins parce qu'il se concentre trop sur l'argent ou qu'il l'aime trop. Ce matin, à l'offertoire, il y a quelques minutes, on nous a expliqué que nous devions être des donateurs, que nous devions aimer donner, et non pas être égoïstes. Pensez à tous les récits de la Bible qui impliquent l'argent et la convoitise. La convoitise a été impliquée dans la vente du Christ la nuit où il a été trahi. Lorsque Judas a trahi Christ, l'argent était en jeu. L'argent était au centre de l'affaire. Zacharie 12 en parle. Excusez-moi, Zacharie 11 en parle. La cupidité était au centre de la mort d'Aniané et de Saphisa. Ils ont retenu l'argent qu'ils disaient vouloir donner. La convoitise a été impliquée lorsque Salomon a recherché l'abondance. Il est devenu l'homme le plus riche du monde, mais la convoitise n'était pas absente. La convoitise s'est manifestée lorsque les changeurs de monnaie opéraient dans le temple et que Christ a renversé leur table. La convoitise de l'argent est le moteur de ce monde, mes frères, mais elle ne devrait pas être notre moteur, car Dieu dit que c'est la racine de tous les maux. Une racine de tous les maux. Matthieu 6, 24 dit, « Nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et Mammon. » Mammon signifie l'argent ou, plus largement, les choses physiques de ce monde. C'est le deuxième point. Le troisième point, ce sont les choses. C'est un peu large, mais les choses peuvent être convoitées. D'une manière générale. Regardez le chapitre 12 de Luc. Tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est ce qui entre dans cette catégorie. Luc, chapitre 12, verset 1. Sur ces entrefaites, une foule innombrable s'étant rassemblée, au point de se presser les uns contre les autres, Ils se mirent à dire aux disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Et ce récit se poursuit, nous pouvons le reprendre au verset 11. « Quand on vous amènera dans les synagogues, devant les magistrats et les autorités, dit Christ, ne vous préoccupez pas de ce que vous devez répondre ou de ce que vous devez dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce que vous devez dire. » L'une des compagnies lui dit, « Maître, parle à mon frère, afin qu'il partage avec moi l'héritage. » Ce type dans l'assistance s'immisce dans le discours du Christ et lui donne de puissantes leçons sur le levain des pharisiens et sur la nécessité de permettre à Dieu d'agir à travers vous lorsqu'on vous fait entrer dans une synagogue. Puis un homme arrive et dit, « Maître, parle à mon frère pour qu'il me donne l'héritage. » Qu'est-ce que c'est? Qui est ce type et que fait-il? Et Christ dit, au verset 14, il lui dit, « Homme, qui m'a établi juge ou départiteur à votre égard ?» Il lui dit, « Prends garde à la convoitise, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des choses qu'il possède. » Pour l'instant, cela fait partie de la catégorie des passions, des possessions et des positions. Il s'agit des possessions, de l'abondance des choses qu'il possède. Voilà pour les biens. En voici un autre, le pouvoir. Regardez le chapitre 2 d'Habacuc. Le pouvoir, l'autorité ou la notoriété ne signifie pas nécessairement que vous devenez le PDG d'une entreprise, ou que vous le désirez, mais il se peut que vous désiriez vous placer au-dessus des autres, avoir de l'autorité sur les autres. Habacuc, chapitre 2. Habacuc, chapitre 2. Lisez juste un verset, le verset 9. Malheur à celui qui convoite mal sa maison, afin d'élever son nid et d'être délivré de la puissance du mal. Il s'agit clairement de ce personnage maléfique qui vient dans la prophétie, mais Dieu relie son désir d'établir son nid en haut, d'être au-dessus de tous les peuples de la terre, de se placer en tant que Dieu au-dessus de tous les autres et au-dessus de Dieu lui-même. Il relie cette prise de pouvoir, si vous voulez, à la convoitise. La convoitise. Jacques 3 nous dit à tous, « N'ayez pas plusieurs maîtres, car vous recevrez un plus grand jugement. » Il y a des versets qui disent que c'est bien, qu'il est bon de rechercher le ministère, de chercher à devenir ministre, mais il y a des versets comme Jacques 3 qui disent, « Faites attention à cela parce que vous obtiendrez un plus grand jugement. » Donc, frères, il y a un équilibre. Soyez prudents lorsque vous recherchez l'autorité, lorsque vous recherchez des positions dans la vie, dans n'importe quel domaine de la vie. Les pharisiens voulaient tuer Christ parce qu'ils menaçaient leur autorité. Ils convoitaient le pouvoir et ne supportaient pas l'idée qu'un homme à l'envers, Christ à l'envers de Nazareth, soit le sauveur qu'ils attendaient tous. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Ils ne le voulaient pas. Ils ne voulaient pas que cet homme règne sur eux. Ils voulaient avoir le pouvoir pour eux-mêmes. Nous pouvons très facilement tomber dans la même mentalité. C'est le troisième P, les positions, les passions, les possessions et maintenant les positions. Vous pouvez désirer et convoiter le pouvoir. Passez à Genèse 3, le point suivant. La sagesse. Vous pouvez convoiter la sagesse, mais la mauvaise sorte de sagesse, mes frères. Genèse 3, la sagesse de ce monde, pas la sagesse de Dieu. Nous pouvons à tort convoiter la sagesse de ce monde jusqu'au début de la Bible. Genèse, chapitre 3 et verset 1. Or, le serpent était plus rusé qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu a fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. » Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que vous n'en mangerez point, et que vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux. » Pensez au dernier point, le pouvoir. Vous pouvez convoiter le pouvoir. Vous pouvez avoir du pouvoir si vous mangez de cet arbre qui connaît le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à regarder et qu'il était un arbre à désirer, à convoiter. Le mot désirer est simple, mes frères. Il est convoité ou à désirer pour rendre sage. Elle prit du fruit de l'arbre et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Il peut vous rendre sage. Cet arbre pouvait les rendre sages. Frères et sœurs, il n'a pas seulement donné à Adam et Ève la possibilité de sentir qu'ils pouvaient eux-mêmes avoir du pouvoir et de l'autorité, contrôler leur propre situation, mais il leur a aussi donné de la sagesse. C'est à tort qu'ils ont désiré et convoité la sagesse de ce monde. Ce récit expose la véritable origine du péché le plus mauvais, ce péché le plus mauvais, la convoitise, que Satan avait et qu'il a inspiré à Ève, et finalement à Adam, ainsi qu'au reste de l'humanité qui suivra. La sagesse est liée à la convoitise, c'est-à-dire à la sagesse de ce monde. Que pouvons-nous convoiter d'autre? Aussi tordu que cela puisse paraître, mes frères, le psaume 70, verset 2, peut être tourné là-bas, le psaume 70 et le verset 2 disent qu'une forme de convoitise est de désirer que d'autres personnes aient de la peine ou soient blessées. Je suis sûr que très peu d'entre nous sont confrontés à cette forme de convoitise, mais c'est peut-être le cas. Si c'est le cas, c'est pourquoi nous l'expliquons ici. Psaume 70 et verset 2. Qu'ils aient honte. Psaume de David, c'est donc David qui parle. Je lis le premier verset, « À toi, ô Dieu, de me délivrer. À toi de m'aider, Seigneur. » David est en difficulté. Qu'il soit honteux, ses poursuivants, et confondu, ceux qui en veulent à mon âme. Qu'il recule et qu'il soit confondu, ceux qui veulent mon malheur. Les gens voulaient vraiment que David soit blessé. Vous connaissez Saül. Saül a lancé des javelots sur David et d'autres choses de ce genre. Saül voulait le mal de David. Dans le monde d'aujourd'hui, frères, la colère est quelque chose que nous pouvons convoiter. Cela semble étrange, mais c'est vrai. Il est facile de tomber dans la rage au volant. Il est facile de tomber dans toutes sortes de problèmes. Pensez à ce monde et à son penchant pour la colère, la haine et le malheur. Nous vivons dans une société qui s'insurge contre l'accord sur le droit à l'avortement en cours à la Cour suprême, qui pourrait être renversé dans un avenir proche. Les gens s'insurgent à l'idée de pouvoir cesser d'être ou de pouvoir cesser de massacrer les bébés qu'ils portent dans leur ventre. C'est remarquable. Nous en sommes arrivés à un point où, il n'y a presque plus d'affection naturelle, comme il est dit dans la deuxième édition de Timothée 3, 3. Il n'y a presque plus d'affection naturelle dans ce monde. Nous pouvons donc convoiter la colère ou le mal. Nous pouvons aussi convoiter de mauvais amis. Oui, Dieu dit que nous avons naturellement envie de fréquenter des gens mauvais, sinon il ne nous mettrait pas en garde dans Proverbe 24. Proverbe 24 et verset 1. Pour les gens qui sont mauvais, et nous pouvons naturellement avoir envie de fréquenter des gens mauvais, c'est pourquoi cet avertissement se trouve dans la Bible, car cela nous corrompra aussi. Proverbe 24. 1. Ne soyez pas envieux des méchants, et ne cherchez pas à être avec eux, car leur cœur cherche la ruine et leurs lèvres parlent de malheur. Dieu ne dirait pas, « Je t'avertis de ne pas fréquenter ces mauvaises personnes. » Ne les fréquentez pas. Si nous n'avions pas naturellement le désir d'être près d'eux, d'être mauvais nous-mêmes. Nous avons la nature humaine, mes frères. Elle est en chacun de nous et nous voulons être comme le monde. C'est ce que nous faisons. Le christianisme consiste à lutter contre cela, à repousser cette nature humaine. D'accord. Alors, mes mauvais amis, des points simples. Maintenant, et c'est plus important, la convoitise est aussi liée à la luxure. La convoitise est un autre mot pour désigner la cupidité, mais dans ce terme, ce que j'entends par convoitise, c'est un désir sexuel pour d'autres personnes. Il peut s'agir d'un désir de fornication, d'un désir de pornographie. Il peut s'agir d'un désir de regarder d'autres personnes et de les convoiter de cette manière. Paul a dit qu'il était parfait dans l'observation de la loi, sauf jusqu'à ce qu'il apprenne ce qu'est la convoitise dans Romains 7, 7. La convoitise se présente sous différentes formes et tailles. Dans la société moderne, lorsque nous entendons le mot « convoitise », nous pensons souvent à la convoitise sexuelle, à la fornication ou à l'adultère. Cette forme est même décrite dans le 10e commandement de l'Exode, au verset 20 et 17, « Ne convoite pas la femme de ton prochain. Ne convoite pas la femme de ton prochain. » Il s'agit bien sûr d'une forme de convoitise, mais la façon dont le mot convoitise est utilisé dans la Bible peut également impliquer une passion ou un désir pour quelque chose de mal. Nous pouvons désirer de mauvaises choses. C'est pourquoi, frères, soyez prudents à cet égard. Fuyez la fornication, fuyez ces choses. Si nous nous trouvons dans une situation où nous commençons à convoiter ou à désirer quelqu'un d'autre, en particulier sur le plan sexuel, fuyez, quittez. Sortez de cette situation. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous concentrer sur quelque chose de bien. Peut-être commencerez-vous alors à convoiter sérieusement les meilleurs cadeaux. Plutôt que de convoiter les désirs de ce monde, convoitez sérieusement les meilleurs cadeaux, remplissez votre esprit d'autres choses. Convoitez les fruits de l'esprit. Convoitez la capacité d'être tempéré, d'avoir l'amour de Dieu, d'avoir la foi. Considérez ces choses lorsque des périodes de mauvaise convoitise s'ébattent sur vous. C'est un autre point, la convoitise est liée à la luxure. La convoitise est également liée à l'impureté. C'est intéressant. Passez au deuxième chapitre de Pierre. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 9, « Le Seigneur s'est délivré les pieds des tentations, et réservé les injustes pour le jour du jugement, afin qu'ils soient punis. Mais surtout ceux qui marchent selon la chair dans la convoitise de l'impureté, et qui méprisent le gouvernement. Ils sont présomptueux, pleins d'arrogance, ils ne craignent pas de dire du mal des dignités. Et ainsi de suite. Mais il y a cette chose, mes frères, qu'on appelle le désir d'impureté. Le mot impureté est intéressant. Il signifie contamination morale. Nous avons une convoitise, un désir naturel d'être moralement contaminé. Pensez-y. Vous vous souvenez tous de la crise de l'eau à Flint, dans le Michigan, qui s'est produite il y a quelques années et de la façon dont l'eau a été polluée. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé de source d'eau, passant d'un plan d'eau à, je crois, la rivière. Ils ont commencé à puiser l'eau dans la rivière. Et au lieu d'ajouter certains produits chimiques pour protéger les canalisations dans lesquelles l'eau était acheminée, l'eau a commencé à corroder les canalisations dans les maisons. Les gens avaient de vieilles canalisations et s'empoisonnaient au plomb ou à d'autres substances qui s'échappaient des canalisations. De nombreuses personnes sont tombées malades à cause de cela. De nombreuses personnes ont été contaminées, empoisonnées. Souvent, ce qui se passe avec la contamination, c'est que l'on est contaminé. Nous avons tous des bactéries qui pénètrent dans notre corps et qui ne sont pas bonnes, mais elles sont présentes en si petite quantité qu'elles ne nous nuisent pas. Notre corps est capable de la combattre. Au fur et à mesure que la contamination augmente, plus on boit de verre d'eau à Flint, dans le Michigan, plus on est malade, jusqu'à devenir très, très malade. Je ne sais pas si certaines personnes sont mortes ou non. Je n'ai pas cherché à savoir. Je ne me souviens pas exactement. Je suis sûr qu'il y a eu des morts. Mais pensez à la contamination morale de la même manière. Si nous nous permettons de convoiter l'une des choses dont nous parlons, ne serait-ce qu'un tout petit peu, cela ne nous fera peut-être pas de mal au départ. Il se peut que cela ne nous fasse pas vraiment mal. Nous ne le sentons peut-être pas, mais avec le temps, plus nous nous laissons contaminer moralement, et si nous convoitons cette contamination morale, cette convoitise de l'impureté, c'est de cela qu'il s'agit, alors nous sommes dans une position terrible, terrible à ce moment-là. On peut penser à la contamination morale de l'Amérique et des nations occidentales. Permettre l'homosexualité. L'autoriser ouvertement et la pousser, pousser des enfants minuscules à devenir eux-mêmes des transgenres et des homosexuels. Il y a ces choses que l'on appelle aujourd'hui les furies. Je ne sais même pas si vous en avez déjà entendu parler. Les gens croient, et c'est accepté, et c'est probablement poussé dans certains domaines de la vie où les gens veulent devenir des animaux. Ils s'habillent comme des animaux. Ils se promènent avec des colliers. Lors d'un repas, nous avons récemment vu une personne à qui l'on avait fixé des oreilles d'elfe sur la tête. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle se promenait avec un tutu et d'autres choses étranges, et tout cela est accepté aujourd'hui. C'est normal et tout le monde dans la société est censé l'accepter. C'est ce qui se passe. Même lorsque j'étais au lycée, il y a seulement 15 ans, lorsque j'ai obtenu mon diplôme, rien de tout cela n'existait, loin de là. Mais cela avait commencé. Cela a commencé. Plus on l'autorisait, plus la nation était moralement contaminée. Ainsi, frères, nous sommes pareils. Nous laissons les péchés entrer dans notre vie, même par petites touches. Plus nous en laissons entrer, plus les choses s'aggravent et finissent par conduire à la mort. La convoitise mène au péché. Le péché conduit à la mort. C'est ainsi que cela fonctionne. Et plus nous permettons à la convoitise de concevoir, plus nous pécherons et plus nous aurons de chances de mourir éternellement, ce qui n'est pas une position dans laquelle nous ou qui que ce soit d'autre veut se trouver. Prochain point, 2 Timothée, chapitre 4. Tournez là. Deuxième chapitre de Timothée. Il s'agit de fausses doctrines. La convoitise est liée à la fausse doctrine. C'est curieux, mais lisons ici le 2e chapitre de Timothée et voyons pourquoi. Nous pouvons convoiter les fausses doctrines. C'est dangereux, mais c'est réel, mes frères. 2e Timothée 4, 1. Je te recommande donc, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts lors de son apparition dans son royaume, de prêcher la parole, d'être prompt au moment opportun, de reprendre, de réprimander, d'exhorter, avec toute la patience et la doctrine voulue. Car le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ils s'amasseront, selon leurs propres désirs, des docteurs qui auront des années de démangeaison. Les gens, nous voulons naturellement. Vous savez, mes frères, nous sommes dans l'Église de Dieu. Nous avons voulu la vérité. Nous ne serions pas ici si nous ne voulions pas la vérité, mais il y a toujours cette nature humaine en nous. Nous voulons. Parfois, nous pouvons nous retrouver à vouloir que quelque chose de doctrinal ne soit pas vrai, ou nous pouvons vouloir qu'une fausse doctrine dans le monde soit vraie. Nous pouvons regarder quelque chose et dire, « Oh, j'aime cela. J'aime la façon dont cela sonne. » Et vous lisez quelque chose en ligne et vous vous laissez prendre par des ordures. Frères et sœurs, les fausses doctrines sont réelles et nous avons naturellement tendance à les désirer. Ce n'est pas pour rien que la Bible parle d'hérésie, je crois que c'est dans la première partie des Corinthiens. Dieu dit qu'il doit y avoir des hérésies qui traversent l'Église de temps en temps. Les gens apportent des hérésies et de fausses doctrines pour en détourner d'autres. Dieu dit que c'est une chose qu'il fait périodiquement dans l'Église pour voir qui est prêt à abandonner la vérité. Les hérésies déferlent sur l'Église et peuvent faire disparaître des gens si nous n'y prenons pas garde. Si nous ne faisons pas attention à nous accrocher à la vérité et à ne pas convoiter de fausses doctrines. Donc, frères, en les parcourant, oui, l'avidité est bien sûr une forme de convoitise. Vouloir des choses et des objets est effectivement une forme de convoitise, mais combien de fois pensons-nous aux fausses doctrines? Combien de fois pensons-nous à convoiter de mauvais amis? Combien de fois pensons-nous à convoiter la sagesse de ce monde comme Ève, ou le pouvoir, ou l'autorité? Nous ne pensons pas souvent à ces choses, mais nous devons le faire pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Le dernier point est l'idolâtrie. Retournez au psaume 106, où nous avons commencé ce message. La dernière partie du point lié à la convoitise est l'idolâtrie. Psaume 106, verset 14. Israël a eu une grande convoitise dans le désert et a tenté Dieu dans le désert. Parce qu'ils ont désiré, une série de problèmes s'en est suivie. Dieu a englouti Dathan et Abiram. Le feu a été allumé dans la compagnie, vous l'avez vu, mais parce qu'ils ont convoité, au verset 19, il est dit qu'Aaron a fait un vœu à Horeb et qu'il a adoré l'image en fusion. La convoitise est liée à l'idolâtrie, parce que lorsque vous désirez tellement quelque chose, vous ou moi, n'importe qui dit en fait, je désire cette chose plus que je ne désire Dieu. Et vous avez en fait créé une idole dans votre cœur. Il ne s'agit peut-être pas d'un vœu physique. Il ne s'agit peut-être pas d'un Bouddha bedonnant. Il ne s'agit peut-être pas de quelque chose de physique comme cela, mais si Aaron et Israël voulaient ce vœu plus qu'ils ne voulaient Dieu, ils l'ont créé. Si nous voulons quelque chose dans cette vie plus que Dieu, nous avons créé une idole. Colossiens, chapitre 3 et verset 5. Je vais le lire. Vous n'avez pas besoin de tourner là. Colossiens, chapitre 3 et verset 5. Notez-le dans vos notes. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, l'affection démesurée, la mauvaise concupiscence, et la convoitise, qui est une idolâtrie. La convoitise est une idolâtrie. Et même le mot qui précède, nous le voyons souvent quand nous lisons ces listes dans Colossiens 3, nous regardons la convoitise et nous voyons que c'est de l'idolâtrie, mais nous ne nous concentrons peut-être pas sur la mauvaise concupiscence, celle qui précède la convoitise. C'est fondamentalement la même chose. La mauvaise concupiscence consiste à désirer quelque chose d'interdit. Nous convoitons des choses mauvaises. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas sous-estimer à quel point nous sommes naturellement cupides, à quel point notre nature humaine aspire à convoiter les mauvaises choses dans cette vie. C'est ce qu'a fait Israël. Israël est tombé dans ce piège. Et ici, en ce dernier jour des pains sans levain, nous ne devons pas le faire. Nous devons apprendre des erreurs d'Israël. C'est l'une des grandes leçons de ces jours de pain sans levain, c'est simplement d'apprendre d'Israël. Apprenez de ces récits, rappelez-vous-en, rappelez-les et tirez-en de grandes leçons, car les péchés de convoitise d'Israël ont été écrits pour toujours afin que nous les apprenions. Ils convoitaient les choses qui leur manquaient en Égypte. Nous aussi, nous pouvons convoiter les choses que nous avons laissées derrière nous dans le monde, mais les choses que nous avons laissées derrière nous dans ce monde conduisent à nouveau à la mort. Alors, qu'aurait dû faire Israël? Pour le reste du message, Qu'aurait dû faire Israël et que devrions-nous faire pour contrer la convoitise? Qu'aurait pu faire Israël pour ne pas vouloir retourner en Égypte? Et frères, que pouvons-nous faire pour ne pas retourner dans l'Égypte de ce monde? La réponse se trouve au verset 1 de l'Épître aux Hébreux. Que pouvons-nous faire pour combattre ou contrer la convoitise? Hébreux 13 et verset 1. La réponse est simple, mes frères. Le 13e chapitre de l'Épître aux Hébreux dit que l'amour fraternel subsiste. N'oubliez pas de recevoir des étrangers, car c'est ainsi que certains ont reçu des anges à leur insu. Souvenez-vous de ceux qui sont dans les liens comme étant liés avec eux, et de ceux qui souffrent comme étant vous-même dans le corps. Le mariage est honorable pour tous et le lit sans souillure. Mais les impudiques et les adultères, Dieu les jugera. Le 5e verset est la clé. Que votre conversation ou votre conduite soit exempte de convoitise. Comment ? Soyez satisfait de ce que vous avez, car il a dit, « Je ne te quitterai ni ne t'abandonnerai jamais. » Et si nous sommes satisfaits des choses que nous avons, si nous sommes satisfaits de notre position et de notre vie, si nous ne convoitons pas telle ou telle chose, si nous ne convoitons pas des passions, des possessions ou des positions, si nous sommes satisfaits, il est dit, nous pouvons dire avec assurance que le Seigneur est mon aide, et que je ne crains pas ce que l'homme me fera. Que votre conduite soit exempte de convoitise. Et nous pouvons le faire, frères, en étant satisfaits. Le mot conversation, conduite, signifie ici mode ou style. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu le terme modus operandi. Un modus operandi est le mode dans lequel nous fonctionnons naturellement dans la vie. Mon modus operandi pourrait être, j'aime garder les choses organisées. Je garde toujours les choses organisées, c'est donc mon modus operandi. C'est ma façon de fonctionner. C'est mon mode de fonctionnement. Dieu dit, que votre modus operandi, que votre mode ou votre façon de fonctionner dans la vie soit sans convoitise. Il poursuit en disant que le moyen d'y parvenir est d'être satisfait. Soyez satisfait des choses que vous avez. 1 Timothée, chapitre 6. Paul nous a montré que la façon de ne pas avoir de convoitise est simplement de se contenter des choses que nous avons, de notre position dans la vie. Cela signifie qu'il faut se contenter des épreuves que nous rencontrons. Là encore, Israël était censé être satisfait. La sortie d'Égypte n'a pas été facile. Il était difficile. Lorsqu'ils sont arrivés aux eaux de Marah, c'était des eaux amères. Ce n'est pas comme si c'était un chemin facile, un chemin lisse pour eux, mais Dieu, néanmoins, ne voulait pas qu'ils convoitent les choses de l'Égypte. Il voulait simplement qu'ils se contentent de savoir que Dieu pourvoirait à leurs besoins, et il doit en être de même pour nous. Nous devons être pareils. 1 Timothée 6 et verset 1. Mais tous les serviteurs qui sont sous le joug considèrent leur propre maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas blasphémés, et ceux qui ont des maîtres croyants, qui ne les méprisent pas parce qu'ils sont un fardeau, mais qu'ils leur rendent service parce qu'ils sont des participants fidèles et bien-aimés du bienfait. Voilà ce que nous enseignons et ce à quoi nous exhortons. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui convient à la piété, c'est un orgueilleux qui ne sait rien faire d'autre que des questions et des querelles de mots, d'où viennent l'envie, les querelles, les railleries et les mauvaises conjectures. Encore une fois, nous pouvons convoiter, en revenant au point concernant la convoitise de la fausse doctrine. Il est facile pour les gens, pour chacun d'entre nous, de se laisser prendre par de petites questions à propos de n'importe quoi. Il peut s'agir de n'importe quelle doctrine de l'Église, du sabbat, de la Pentecôte, de la dîme, de la prophétie ou de n'importe quoi d'autre. Les gens peuvent se perdre dans de petites questions et il peut se développer ce qu'on appelle un bébé cerveau, une petite idée dans la tête que vous avez compris quelque chose que personne d'autre ne sait, que personne d'autre n'a compris. Oh, j'ai vu quelque chose que tout le ministère du siège et tout le ministère depuis 2000 ans n'a jamais vu. Non, ce genre de choses, c'est pourquoi il est facile de tomber dans la fausse doctrine. Nous pouvons tomber dans ces bébés du cerveau. Ces petites idées que nous avons dans la tête sont dangereuses et empoisonnées. Elles nous corrompent comme l'eau de Flint, dans le Michigan. Mais en descendant, j'ai été pris par l'explication et j'ai oublié où j'étais. Attendez une seconde. 1 Timothée 6, reprenant le verset 5. Les discussions perverses d'hommes à l'esprit corrompu et dépourvus de vérité, qui prétendent que le gain est la piété, retirez-vous de ces gens-là. Voici la clé, mes frères, si nous convoitons quoi que ce soit dans cette vie, voici la résolution, mais la piété avec le contentement est un grand gain. Disons que nous avons une idée sur quelque chose, que nous avons lu quelque chose dans la Bible et que cela nous enthousiasme ou nous intéresse. S'il s'agit d'une question épineuse qui va à l'encontre de la vérité que vous croyez, mes frères, laissez la 1 Timothée 6, 6 vous servir de guide. La piété avec le contentement est un grand gain. Contentez-vous de ne pas pouvoir répondre à cette question, quelle qu'elle soit, parce que Paul nous a averti que nous pouvons facilement nous laisser prendre par de petites questions pointilleuses. Car nous n'avons rien apporté, verset 7, nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est certain que nous ne pouvons rien emporter et, ayant de la nourriture et de la pluie, soyons là avec, encore une fois, du contentement. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en emporterons rien. Cela inclut toutes les connaissances que nous possédons. Dieu nous a donné, à vous et à moi, la connaissance, il nous a donné la sagesse, la compréhension, la connaissance que nous avons, et il peut nous l'enlever tout aussi facilement. C'est ce qui est si terrifiant. Nous avons commencé sans aucune connaissance dans cette vie et Dieu nous a donné une connaissance massive pour être ici. Alors contentons-nous de la connaissance et de la compréhension que nous avons. Ne nous préoccupons pas de questions difficiles que nous n'aurions jamais eues sans la connaissance que Dieu nous a donnée au départ. Si quelqu'un quitte l'Église à cause d'une petite question difficile, il n'aurait même pas eu cette question difficile s'il n'y avait pas eu l'Église unique de Dieu et la connaissance que Dieu lui a donnée, pour commencer. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ils quittent l'Église, la seule Église, le seul Dieu qui leur a donné la connaissance qui leur a permis d'avoir potentiellement une question, une petite question qui les tracasse. Soyez satisfaits, mes frères. Soyez satisfaits. Maintenant, c'est une chose curieuse aussi, parce que, mes frères, nous avons parlé de la bonne et de la mauvaise convoitise, mais il y a ce drôle de juste milieu et je veux l'expliquer aussi. Il y a des cas où convoiter quelque chose n'est pas toujours mauvais, mais ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu pour vous à ce moment-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Disons que vous êtes aux prises avec un problème de santé, peut-être chronique, et que vous y faites face depuis longtemps, et que vous convoitez, vous aspirez, vous voulez désespérément que Dieu vous guérisse. Il n'y a rien de mal à vouloir que Dieu vous guérisse, mais ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu à ce moment-là, alors contentez-vous. La meilleure façon de traverser la situation est de se contenter du sort que Dieu vous a donné. Pensez à Paul. Paul a reçu une épine dans la chair dans le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens. Nous pourrions lire rapidement le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, verset 1. Il y est dit qu'il n'est pas opportun pour moi de... Bon, passons au verset 4, comment il fut enlevé. Il est question de Paul qui a été enlevé au troisième ciel. Il ne sait pas s'il était en vision ou non, Comment il a été enlevé au paradis et il a entendu des paroles inexprimables, qu'il ne m'est pas permis de prononcer, d'une personne qui parle d'elle-même, je me glorifierai, excusez-moi, mais de moi-même, je ne me glorifierai que dans mes faiblesses. Quand bien même je voudrais me glorifier, je ne serai pas un imbécile, car je dirai la vérité. Mais maintenant, je m'abstiens, afin que personne n'ait de moi une opinion supérieure à ce qu'il paraît ou à ce qu'il entend dire de moi. Et de peur que, par l'abondance des révélations qui m'ont été données, je ne m'élève au-dessus de toute mesure, une épine dans la chair, un messager de Satan, m'assaillant pour m'empêcher de m'élever au-dessus de toute mesure. C'est pourquoi Paul avait une écharde dans la chair. C'est pourquoi il demanda trois fois à Dieu de l'éloigner de lui, afin que cette épine dans la chair s'en aille. Et il me dit, « Dieu dit que ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Ainsi, malgré l'écharde dans la chair à laquelle Paul a dû faire face probablement pour le reste de sa vie, il s'en est accommodé parce qu'il savait que cela signifiait que la puissance du Christ reposait sur lui. Philippiens, chapitre 4, quelques pages plus loin, Philippiens, chapitre 4, et nous lisons ici au verset 11, à partir du verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, faites-le, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Mais je me suis beaucoup réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, à la fin, votre attention à mon égard a prospéré de nouveau, car vous êtes aussi attentif, mais vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Ce n'est pas que je parle de manque, car j'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. Je sais à la fois m'abaisser et abonder. En tous lieux et en toutes choses, je suis instruite à la fois à être rassasiée et à avoir faim, à abonder et à être dans le besoin. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, si nous sommes satisfaits dans quelque état que nous soyons, que nous vivions dans les jours de prospérité ou dans les jours d'adversité, Paul dit qu'il a appris à être satisfait. Il prouve que les épreuves peuvent venir. Paul le prouve. Paul prouve que les épreuves peuvent toucher aussi bien ceux qui sont bien lotis dans ce monde que ceux qui sont pauvres dans ce monde, si vous voulez. Il faut aussi considérer que ce même Paul, plus tôt dans le chapitre 7 des Romains, au verset 7, a dit que la convoitise était la seule loi qu'il se rendait compte qu'il n'avait pas entièrement comprise et respectée. Qu'a donc fait Paul? Il a passé le reste de sa vie à apprendre à se satisfaire. L'antidote à la convoitise. L'antidote à la convoitise. Un dernier verset, mes frères. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, et nous reprendrons au verset 14. 2 Corinthiens, 4, 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous présentera avec vous. Tout est gratuit pour vous, afin que l'abondance de la grâce, par l'action de grâce d'un grand nombre, serve à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous laissons pas, car si l'homme extérieur périt, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour pour notre légère affliction, qui n'est qu'un moment. Tous les problèmes que nous rencontrons, toutes les épreuves que nous rencontrons, toutes les convoitises que nous devons combattre dans cette vie sont considérées comme des afflictions légères pour Dieu. Et ce n'est que pour un instant, au verset 17. Frères et sœurs, toutes ces épreuves et le fait d'apprendre à être satisfait, nous apportent un poids de gloire bien plus grand et éternel. Nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporelles, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Si nous pouvons nous rappeler que tout ce que nous sommes capables de convoiter dans la vie, passion, possession, ou position, Toutes ces choses sont temporaires si nous nous souvenons de cela. Dieu dit qu'il nous donnera la capacité d'être satisfaits. Nous devons rester satisfaits et concentrés sur les choses qui sont éternelles. Alors, frères, en ce dernier jour des pains sans levain, repensez à la convoitise d'Israël. Tirons-en les leçons. S'ils s'étaient contentés des énormes miracles qui les ont fait sortir d'Égypte au départ, et des miracles qu'ils ont vus tout au long de leur séjour dans le désert avec la colonne et la nuée, s'ils s'étaient contentés de ces miracles, ils n'auraient pas désiré les choses de l'Égypte. Ils auraient été heureux. Ils auraient été joyeux et reconnaissants pour ce que Dieu leur a fourni à la place. Frères et sœurs, nous devons faire de même. Nous devons apprendre à être satisfaits. Ce faisant, nous serons heureux, joyeux et reconnaissants du sort que Dieu nous a réservé dans la vie.